Bonsoir à tous. Je vais intervenir deux minutes pour présenter le professeur Philippe Guton, si vous ne le connaissez pas, qu'on reçoit aujourd'hui dans les salons Mola pour travailler un peu cette question d'adolescence et djihadisme. Comment présenter Philippe ? C'est un psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, professeur des universités, qui est principalement connu pour son travail sur les théories de l'adolescence. Il a créé dans les années 80 à l'université Paris 7 l'unité de recherche sur l'adolescence, qui a fait une grande école, qui est toujours très active. Et il a créé aussi la revue Adolescence, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est toujours une revue extrêmement active et qui publie 4 numéros par an. C'est un garçon qui est un créatif, hein, qui a toujours de nouvelles idées et qui nous entraîne un peu dans sa créativité. L'adolescence, il est important de rappeler très rapidement, je vais résumer finalement plusieurs décennies de travail en deux minutes. Hein. L'adolescence, ça se définit dans les théories modernes comme un processus dans lequel il a distingué les processus, on va dire, pubertaires et les processus de subjectivation ou adolescence, pour essayer de définir cette façon dont l'adolescence est un nouveau temps, un temps non pas seulement de reprise de l'infantile et du passé, mais un temps de création, un temps de génitalisation, qui, dans une espèce de miracle de la vie, oblige l'enfant devenant adolescent à subir sa puberté, à construire de nouvelles représentations psychiques avec tout ça, et apprendre à apprivoiser son corps. Donc l'adolescence, ce n'est pas qu'une crise de l'identité, c'est une crise de l'estime de soi, de l'identité, mais aussi des identifications. C'est aussi un moment de conflit avec les parents, avec la famille, et bien sûr la nécessité pour l'adolescent de faire un travail dit de subjectivation, que Philippe a nommé notamment adolescence, qui est un travail de dégagement de la scène familiale pour se tourner vers ses propres objets d'amour, vers ses propres projets, et créer comme ça une nouvelle dynamique vers le projet d'adulte. Très rapidement, j'insisterai sur une notion qui nous est chère et qui nous a amené à la réflexion depuis déjà quelques années, c'est la question de l'anthropologie, les liens entre anthropologie et adolescence. Je crois qu'il en sera question dans l'ouvrage aujourd'hui, parce que cette question de l'anthropologie, au sens où il l'a définie, nous aide à travailler aussi l'adolescent, pas seulement dans sa dimension clinique ou psychopathologique, mais aussi dans sa dimension sociétale, en quelque sorte. Et on sait combien aujourd'hui l'impact de la société, de ses remaniements, de ses activations, de son terrorisme finalement, oblige l'adolescent à faire aussi un travail et à être accompagné dans ce travail de subjectivation pour s'extraire de cette potentielle morbidité de l'adolescence quand ça tourne mal. Alors très rapidement, vous savez que les adolescents, nous on s'occupe d'adolescents qui vont très mal, donc on les appelle des terroristes aussi quand ils sont suicidaires, quand ils sont anorexiques, quand ils sont fugueurs, quand ils sont psychopathes. On peut dire que ce sont des adolescents qui vont mal et qui ont une fâcheuse tendance dans leur clinique à produire des actes, parce que l'adolescent est un acte, et quand il souffre, il envoie d'abord des actes vers les adultes, en espérant qu'il sera compris, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ces adolescents en acte vont parfois jusqu'au pire, c'est-à-dire jusqu'à se retourner cette violence sur eux-mêmes, jusqu'à s'autodétruire. Voilà les problématiques graves de l'adolescence. Et puis rappelons rapidement que 80% des adolescents au moins vont bien dans ce pays, et les familles fonctionnent encore, ce qui est quand même un sacré espoir pour nous, mais qu'évidemment, dans les cas où ça se passe mal, c'est important d'être là et de façon extrêmement spécifique pour les accompagner et les soigner. Voilà. Aujourd'hui, avec la question du djihad, on est dans une nouvelle forme de violence impliquée à l'adolescent lui-même, impliquée aussi au corpus adulte, et dans une nécessité d'avoir des réflexions là-dessus, parce qu'on est de plus en plus sollicité en tant que thérapeute pour s'occuper aussi de ces jeunes. Voilà, très rapidement, la présentation de Philippe et de son travail.
Je vais faire une petite présentation de ton ouvrage, Philippe, si tu veux bien. Donc, d'abord, pour présenter peut-être Philippe Thédot et moi-même, qui sommes psychiatres et psychanalystes à Bordeaux, et très impliqués dans le travail avec les adolescents, sans travailler et pas seulement. Et nous faisons partie, depuis de très nombreuses années, du séminaire de Philippe Guton. Et c'est à ce titre que nous avons à cœur de présenter le travail, le livre de Philippe Guton aujourd'hui. Donc, c'est un petit livre, Adolescence et djihadisme, écrit dans la lignée du choc de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il paraît en octobre 2015, un peu plus d'un mois, donc avant les attentats de novembre à Paris. Il traduit, à mon sens, par son format et son écriture, un souci de l'urgence à comprendre le mouvement adolescent. Ce que je dis, c'est des questions, au fond, auxquelles peut-être tu pourras réagir et dire si tu es d'accord ou pas. Donc, l'urgence à comprendre le mouvement adolescent à l'œuvre dans le déchaînement de violence et de destructivité dont nous avons été les témoins impuissants. En effet, nous avons un discours, un style dépouillé, épuré, aigu, cherchant l'essentiel de la théorie, cherchant à rassembler les points d'appui théoriques fondés par Philippe Guthon, l'adolescence comme création de l'identité de sujet, après le premier temps du choc pubertaire, la situation anthropologique fondamentale de l'adolescence, le processus de subjectivation, et reprendre en 11 chapitres brefs l'essentiel du corpus théorique, je cite Philippe Guthon, permettant d'interroger dans un raisonnement par étapes les trajectoires ordinaires et pathologiques des jeunes, précisément celles susceptibles de les rendre sensibles à une idéologie extrémiste et aux injonctions de se délocaliser. C'est aussi un texte politique, si l'on veut bien l'entendre ainsi, puisqu'il affirme l'urgence et la nécessité vitale de comprendre la trajectoire subjective qui conduit au furieux désir de sacrifice tel que le nomme non sans courage Fethi Ben Slama dans un récent article du Monde. Comprendre la dimension psychopathologique de la radicalisation, ce qui inclut la dimension inconsciente des auteurs d'actes, de ces actes, entendus comme symptômes, donc les actes, même s'ils sont tragiques, afin de ne pas se laisser abuser par la seule réaction de la société à l'agression terrible dont elle a été victime, et de ne pas réduire le processus djihadiste à des causes sociopolitiques, c'est les mots de Philippe Guthon, ce qui reviendrait à ne retenir qu'une seule cause parmi d'autres. Toujours Philippe Guthon, ce qui se passe en adolescence est une métaphore des problématiques de notre société, son examen est facteur d'ouverture, faire le djihad est un symptôme de la situation adolescente, tel le suicide, l'automutilation, l'addiction, la fugue. Alors, faisant fi des classifications et des profils types, tu nous entraînes du côté du parcours nouveau qu'impose le voyage adolescent, loin des repères infantiles, une odyssée qui doit aboutir à la création d'une identité, la création, j'insiste, c'est un mot sur lequel tu insistes beaucoup, d'une identité nouvelle et inconnue. Quelle figure prendra-t-elle, cette création? Grâce à quelle rencontre? Et par quelles limites sera-t-elle contrainte, dans quelles impasses sera-t-elle obérée? Telle est la situation anthropologique fondamentale de l'adolescent, obligé de se construire lui-même à partir de ses acquis reniés et de ses trouvailles identificatoires en chemin. Elle est donc paradoxale, l'adolescence, la construction adolescente, à la fois conflictuelle oedipienne et soumission consentie au nouvel ordre social. Le processus aboutit à la création d'une identité propre, asymptotique, toujours en devenir, prise dans le mouvement progressif de la subjectivation et de la subjectalisation. Peut-être ces deux mots pourront être repris si tu le souhaites. Qui inclut le regard de l'autre et le regard du socius. Ce rapport à la subjectivation, c'est devenir soi, mais au regard des autres. Dans le regard, à travers le regard des autres. Tu distingues deux mécanismes très différents dans le fonctionnement de l'espace-temps entre figure idéale et idéologie, celui de l'imitation du côté de l'emprise, et peut-être d'une théorisation plus référée à René Girard, et celui de l'identification du côté, me semble-t-il, de la créativité, et là dans une perspective plus freudienne classique. Mais, pour reprendre la séquence de tes chapitres, l'évolution contemporaine ne va pas dans le sens d'une facilitation de la création subjectale adolescente. Le sentiment d'impasse subjectale ainsi déterminée, parfois déterminée, est la prédisposition la plus forte pour se laisser détourner de sa propre voie subjectale, c'est-à-dire séduire en direction de l'emprise sectaire. Se laisser détourner de sa propre voie subjectale, c'est-à-dire se laisser séduire par l'emprise sectaire. Tu engages ensuite une réflexion sur la méthode et les objectifs du discours djihadiste, que tu penses comme un discours pervers, cherchant la séduction narcissique des idéaux par l'offre de radicalisation qui la rend si attirante chez les jeunes en attente d'idéal, et notamment en cas de sentiment d'impasse ou d'idéal blessé. Le résultat des injonctions paradoxales proposées par la méthode sectaire aboutit à la rupture avec soi-même et ses propres idéaux, remplacés par ceux de la pensée unique de la secte qui propose aux jeunes les idéaux de l'adolescence sont remplacés par les idéaux de la pensée unique de la secte qui propose aux jeunes d'en devenir le héros éternel en quelque sorte. Le héros éternel, ce qui quand même nous évoque le fantasme d'immortalité, les fantasmes d'immortalité, la convocation de l'immortalité, si importante, comme on le sait, à l'adolescence. Donc, discours paradoxal, double contrainte, hein, voir l'intérêt... Double contrainte, discours de double contrainte dans l'emprise sectaire, comme par exemple voir l'intérêt de l'univers et pas son nombril, ou bien puisque tu ne réussis pas ta vie, autant réussir ta mort, en faire quelque chose de bien, pourrait résumer le discours sectaire paradoxal, ou bien au fond vraiment dans l'injonction paradoxale complète que tu évoques dans ton livre, pour devenir toi, pour devenir vraiment toi, alors tu ne dois plus exister. Et le jeune y consentira d'autant plus à ce sacrifice, en quelque sorte, là je reprends le mot de Fethi Ben Slama, sacrifice, qu'il aura le sentiment de résoudre un préjudice individuel à travers l'acte destructeur au service d'une transcendance supposée. Et in fine, dans ton livre, tu opposes le modèle sectaire désubjectivant et mortifère au modèle de l'établissement de liens par la médiation des pensées associatives libres du modèle freudien. C'est-à-dire proposer, au fond, de parler avec eux, parler ensemble, de ce qui vient, de ce qui se dit, sans trop de jugement, quel qu'il soit, me semble-t-il. Alors, à partir de ce résumé très très condensé, au fond... Il me semble qu'il y aurait trois axes de questions possibles à partir d'une remarque qui est que tu proposes donc d'intégrer, comme tu le dis, la notion de la radicalisation au même titre qu'un symptôme psychopathologique tel qu'on le connaît dans les conduites d'agir autodestructrices chez l'adolescent. Et Dieu sait que c'est pas simple à résoudre. Pour autant, n'y a-t-il pas dans le phénomène de la radicalisation, du djihadisme, du terrorisme dont tu parles, une situation particulière quand même, une situation peut-être spécifique et qui n'est pas, qu'on ne découvre pas au moment des attentats contre Charlie, qui préexiste déjà autour des adolescents qui se font exploser, que ce soit en Israël, en Palestine, en Irak, et dans de nombreux pays, et depuis longtemps, voire d'ailleurs le 11 septembre, au fond. C'est-à-dire qu'on retrouve cette configuration dont je me demande si elle n'a pas quand même une spécificité, dans la mesure où il s'agit de tuer... en tuant, de se tuer en tuant. C'est tuer, être tué. Donc là, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est différent de la psychopathologie habituelle qu'on rencontre chez nos adolescents qui sont pris dans leur conduite d'autodestruction, qui s'attaquent eux-mêmes. Mais en général, ils n'attaquent pas les autres. Ils se tuent, ils peuvent se tuer, et Dieu sait que ça peut faire du mal autour d'eux, mais ils ne tuent pas les autres. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez systématique où il s'agit de tuer, être tué, les deux à la fois. Donc à partir de cette question, n'y a-t-il pas là quelque chose de spécifique? Au fond, j'aurais envie de te poser trois axes de questions qui seraient, premièrement, comment opposer, comment réussir avec Comment réussir à établir des liens, puisqu'au fond, c'est ça que tu proposes, selon le modèle de la parole, selon le modèle freudien, comment établir des liens avec celui qui fait parler la poudre et qui cherche à détruire son interlocuteur. En tant que porte-parole, là aussi c'est un mot que tu utilises souvent, en tant que porte-parole d'une logique subjectivante mais inaudible, car muette. Deuxième type de question, le rapport à la religion que tu choisis délibérément de ne pas aborder, ni à la politique, dans ton livre que tu maintiens comme spécifique de la psychopathologie de l'adolescent. Pour autant, on trouve par exemple chez un auteur comme Fethi Ben Slama l'idée d'associer la radicalisation de ces adolescents djihadistes, l'idée d'associer la radicalisation, je crois qu'il appelle au mythe de l'idéal blessé de l'islam. Voilà, c'est ça, ce sont ces mots, le mythe de l'idéal blessé de l'islam. C'est la deuxième question. La troisième question, au fond, à travers cette figure du djihadiste, est-ce que, en pensant au Saint-Sébastien que tu as développé à propos de l'adolescent blessé qui, au fond, subit pacifiquement et de façon en martyr les flèches de son destin et de l'autre, de la société, du socialisme, enfin de tout ce qu'on veut, au fond, est-ce qu'on n'aurait pas là, dans la figure du djihadiste, un renversement de Saint-Sébastien placide, passif et masochiste, au fond, un masochiste peut-être de bon aloi, un renversement en un Saint-Sébastien vengeur tout-puissant, une toute-puissance donc alimentée par un fantasme d'immortalité, puisqu'il s'agit de démarrer la vraie vie après la mort terrestre. Hein. Au fond, est-ce que la figure de Saint-Sébastien ne s'est pas renversée dans la figure du cavalier de l'Apocalypse, à travers le djihadiste?
Toi. Quelle introduction, quelle introduction. Vraiment, vraiment très, très large, et donc je te remercie, Marc, de l'avoir pensé comme cela. Et je vais peut-être reprendre les questions que tu poses à partir d'exemples cliniques qui vont nous permettre de mieux pouvoir les aborder, de mieux pouvoir les faire vivre, les questions que tu me poses. Alors, je suis bien d'accord que j'ai écrit ce livre à l'occasion d'un agacement d'entendre toujours sur les radios, dans les médias et dans les journaux, la réflexion sur le djihad sous un angle exclusivement sociopolitique et religieux. Il y a en effet des questions à réfléchir dans ce domaine, mais la question proprement psychologique, la question de rapprocher le départ au djihad des difficultés que les adolescents, que 20%, on dirait-on, des adolescents peuvent avoir dans notre culture, eh bien, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne se faisait pas spontanément et qui ne s'est pas fait au décours des premiers attentats. Alors, de fait, la question posée dans le domaine sociopolitique, ce n'est pas une question d'adolescence, c'est une question... Enfin, ceux qui étaient auteurs des attentats n'étaient pas des adolescents, mais ils l'ont été. Et... D'autre part, après renseignement, je me suis aperçu que beaucoup des adolescents qui souhaitaient partir en Syrie étaient des adolescents parfois très jeunes. Vous allez voir, je vais prendre deux exemples d'adolescents de 15 ans. Donc, ça m'a amené à une réflexion sur tout à fait fondamentale, que nous avons fait très souvent dans le cadre de nos recherches, à savoir de réfléchir sur la volonté du partir. Partir, voilà. Adolescence, c'est partir. Freud disait, adolescence, c'est partir de la famille. Ça, c'est une conception en relation avec une conception de la famille qui était celle que Freud avait il y a un siècle autour de lui. Mais partir de quoi ? Partir d'où ? Partir de chez soi, hein, Fethi Bestama parle du chez soi, du partir de chez soi. Y a-t-il un chez soi d'ailleurs ? Et y a-t-il véritablement un chez soi dont l'adolescent a envie de partir ? Est-ce qu'il n'aurait pas plutôt pas envie de partir d'un lieu flou, d'un lieu d'une insertion relativement mauvaise ? Par exemple, c'est une réflexion qui a été menée assez loin. Quand on pense que, plus maintenant, mais dans l'année 2015, eh bien, on repérait pour partir essentiellement des adolescents de la deuxième génération d'émigrés installés en France. Donc, cette deuxième génération partait d'où ? Est-ce qu'il y avait déjà un chez-soi chez leurs parents ? Est-ce que ce chez-soi, qui était biculturel, avait quelque chose de véritablement intime ou intime-extime, comme nous disons volontiers ? Enfin, bref, toute une série de questions qui, je les parcours comme ça, en titre d'introduction, mais toute une série de questions qui incitent à réfléchir le partir en Syrie à partir de ce que nous avons décrit, de ce que nous rencontrons, et de l'insérer, comme tu as dit Philippe, de l'insérer dans les symptômes que nous avons l'habitude de traiter, pour ma part depuis une bonne quarantaine d'années, les grands symptômes, en particulier sur la question du meurtre, et du meurtre de soi et du meurtre de l'autre, la question du suicide à l'adolescence, mais également dans le partir, il y a la question de la fugue à l'adolescence, il y a la question de l'errance des adolescents qui n'ont pas de chez eux ou qui ont un chez eux si léger qui ne le retient pas. Enfin, bref, nous faisons donc du symptôme de partir en Syrie un symptôme de la situation anthropologique fondamentale de l'adolescence telle qu'elle est aujourd'hui. Et si ce symptôme a peut-être eu cette importance, à un moment dans les statistiques, il est apparu qu'on pensait, on est arrivé à penser, mais je pense qu'il y a quelques erreurs dans ce constat, qu'il y avait peut-être 60 000 adolescents qui avaient envie de partir. Ce qui est tout à fait impossible à imaginer, mais pour dire que l'inflation qu'on peut avoir quand on commence à demander à un adolescent « Veux-tu partir en Syrie ?» Bien sûr, il dira peut-être oui, comme ça, mais ça dépend de tellement de facteurs. Alors, c'est une envie donc de revenir à un travail d'explication, oui, expliquer les choses de l'adolescence, en sachant que le mot explication est toujours incomplet dans le champ psychanalytique, mais qu'aussi le mot explication est très mal vu sur le plan politique. Hein, c'est Manuel Valls qui a dit qu'expliquer c'est excuser. Non, expliquer. Enfin, nous savons bien que expliquer est pris pour excuser dans les relations que nous avons, comme si avec le tribunal. Mais expliquer, c'est réfléchir à un certain nombre de données qui apparaissent dans le dossier.
Ça veut dire que c'était politique.
Pardon ?
C'est pour ça que je disais que ton point de vue était aussi politique.
Mon point de vue est aussi politique et défendant une position assez différente de ce que les politiques justement tiennent. Alors, l'idée, tu l'as résumé, Marc, l'idée de base, la théorie de base de l'adolescence, est une création de soi. L'adolescent a pendant un temps X, hein, en train de se créer, engagé dans une créativité avec des désillusions, des moments de créativité très intense, je ne suis plus moi-même, ça y est, je me trouve enfin, etc. Et en même temps, des moments de désespérance, depuis un an que l'adolescence est advenue, que la puberté est advenue plutôt, eh bien, depuis un an, je suis toujours le même, je ne bouge pas, je suis toujours l'enfant de mes parents, etc. Mais, bref, il y a une espèce de de volonté, de trajectoire de création qui est considérable. Et j'ai régulièrement, d'ailleurs, rapproché cette trajectoire de créatrice de celle de l'artiste. Celle de celui qui fait un tableau, qui fait une œuvre. Et l'adolescent fait une œuvre, et cette œuvre, c'est lui-même, et c'est également l'environnement qu'il veut remanier. Il n'est plus celui qui est passivé comme ça dans l'enfance, et il veut réagir, il veut s'activer. Le mot qui vient d'ailleurs dans les observations, c'est il veut s'engager. Oui, l'adolescence est un engagement. C'est un engagement. C'est toujours un engagement. Et comme tout engagement, ça suppose un dégagement. Un dégagement de ce que l'on est pour s'engager dans ce qu'on devient. Ou plutôt, pour être plus précis, on dirait pour s'engager dans ce qu'on deviendrait. Peut-être. Il y a, voyez-vous, cette conception très mobile de l'adolescence qui est tout à fait différente de celle qui consiste à faire des profils et à énumérer les symptômes, à faire des diagnostics. Non, nous sommes devant un âge en pleine mobilité. Il n'y a pas le normal et le pathologique, c'est beaucoup trop classé, ça. Il y a un mouvement de l'adolescent qui va s'engager. Alors, je dis juste un mot sur cette trajectoire. Il y a deux axes de nos positions, il y a deux axes de nos réflexions. Il y a le premier, c'est se trouver soi-même. Je veux me trouver moi. On entend ça tout le temps. Je veux être moi-même. Je ne veux plus être ce qu'on dit de moi. Bref, je veux être moi-même et en particulier, je veux m'engager à être moi-même et je ne peux l'être qu'avec les autres, qu'avec un autre. Donc, première lignée serait la lignée un peu bien classique comme ça qu'on voit, toujours, qui est la lignée du vivre ensemble. La lignée d'être soi-même avec un autre que l'on aime. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est une première lignée qui est celle de l'existence, d'être, on va dire d'être. Pour moi, c'est toujours, pour moi qui travaille sur l'adolescence, c'est toujours être avec. C'est être avec. Deuxième lignée, je ne fais que les esquisser, on peut les creuser beaucoup plus, c'est avoir, c'est trouver une place. Et précisément, trouver une place sociale. L'adolescent veut être aujourd'hui un acteur social. Et il le veut avec force. Il veut être un acteur social dans son collège, dans son lycée, il est déjà plus grand, il a d'ailleurs une place meilleure. Il veut être un acteur, un élève qui a une place sociale reconnue. Il veut être regardé comme un acteur social, comme celui qui agit dans la société. Bref, vous voyez, il y a deux lignées là que je vais souligner. Je vais y revenir à partir de l'exemple clinique que je vais travailler. Il y a cette lignée donc de l'être et celle de l'avoir, celle d'être sous l'emprise, de s'affirmer comme étant et d'être sous l'emprise d'eux. Des parents, bien entendu, mais également des autres adultes de l'environnement, et de mettre des adultes sous leur emprise, bien sûr, l'emprise, ça se renverse, n'est-ce pas, d'imiter, comme tu as dit, tu as rappelé tout à l'heure à propos de René Girard, mais dans la philosophie de René Girard, c'est imiter et contre-imiter. C'est imiter l'autre, l'adulte en l'occurrence, et contre-imiter, c'est-à-dire se révolter, faire l'inverse de ce qui est proposé. Bref, je ne vais pas en dire plus sur ces deux lignées, et vous allez voir comment on va les retrouver dans une observation que je vais résumer, qui n'est pas dans le livre, mais je suis engagé dans la rédaction d'un deuxième ouvrage, peut-être plus approfondi, en sachant en plus que cette question du partir en Syrie s'est considérablement modifiée avec l'abord que la société a eu. C'est modifié sur le plan psychologique dont je suis engagé dans une seconde rédaction. Alors c'est un exemple clinique. Il est très difficile, une parenthèse, il est très difficile de, de trouver des exemples cliniques. Et beaucoup de colloques qui ont été menés ne partent pas de la clinique, dans la mesure où c'est une clinique très secrète, avec, dans laquelle il n'est pas possible, vu les règles de la justice, de prendre un exemple dans un colloque psy de ce qui se passe. Donc j'ai choisi de vous présenter l'exemple d'une jeune fille de 15 ans qui est dans le troisième livre écrit par Dounia Bouzard. Le troisième livre, Dounia Bouzard, je vous rappelle, qui avait créé, puisqu'elle a arrêté son travail, qui a créé un centre dit de désembrigadement ou bien de déradicalisation. Et qui recevait donc des adolescents qui étaient arrêtés pour soit au moment de partir à la frontière, ou bien sur un désir de partir très violent, sur des motifs en général trouvés sur les ordinateurs. Donc ce sont ces adolescents qui étaient sur le point de partir ou dont on pouvait projeter qu'ils allaient partir. Je disais tout à l'heure qu'il y en avait peut-être 60 000 comme ça, mais ça m'étonnerait beaucoup. Ce sont plutôt des statistiques, je reviens là-dessus, qui ont justifié la création de postes de psychologues à la PJJ. Alors, ce cas de Dounia Bouzard est comme ça en filigrane dans son livre. Elle le raconte pas comme ça, mais on en voit un peu à tous les chapitres des caractéristiques de ces jeunes filles. J'ai réuni un peu ces caractéristiques pour les voir. Alors d'abord, l'histoire de cette jeune fille, je la résume beaucoup, mais je vais m'arrêter ensuite à la première séance dite de désembrigadement. Ou bien encore, c'est un terme horrible, hein, de déradicalisation, qui est un terme pour lequel on pourrait revenir. Alors, cette jeune fille qui s'appelle Léa, qui a été nommée Léa dans le livre de Bouzard, à 15 ans, elle habite une bourgade bretonne, donc assez une petite bourgade bretonne. Elle n'est pas, comme tout le monde le dit, dans la banlieue parisienne ou autour des grandes villes. Et sa mère s'inquiète parce qu'elle a changé. Elle a ce que les indices de radicalisation, ce que les statistiques recherchent, les indices de radicalisation, à savoir qu'elle était bonne élève, elle devient mauvaise, elle avait des amis, elle ne les voit plus, elle était très libre de fonctionnement comme ça d'adolescente, très caractérielle en plus, et elle ne l'est plus, et puis elle semble entrer dans des convictions religieuses, dans des convictions islamiques, elle se voile, elle se dit protégée par ce voile, protégée par ce voile, sans savoir vraiment répondre à la question, mais protégée contre qui ? Et elle se dit libérée par le voile. Donc elle se dit libérée probablement de... Enfin, elle ne répond pas, parce que cette protection-libération est déjà toute une source de discussion entre ses parents et elle. Bref, ses parents, sa mère surtout, est hyper inquiète et va en douce voir l'ordinateur de Léa et découvre un dialogue très important chaque jour entre sa fille et un djihadiste, un recruteur, donnons ce mot. Alors, recruteur qui la sollicite, je reviendrai sur le discours djihadiste ultérieurement. Mais inquiétude, on en parle à la gendarmerie. La gendarmerie met Léa sous écoute. Son ordinateur est surveillé. Et bref, sous cette surveillance, Léa reprend une vie normale, lâche son voile, elle commence à mener des vacances normales. Et puis, un mois après, elle reprend ses discussions entre elle et les terroristes, dit-elle sur son ordinateur, Et un matin, elle est arrêtée. Son arrestation est assez violente. Six cagoulés arrivent dans sa chambre à 7 heures du matin, l'enlèvent et l'emmènent de Bretagne au tribunal de Paris. Et la voilà qui se trouve dans une salle d'audience. Et là, imaginez-la, c'est un personnage très fier. Tout le monde lui pose des questions et elle ne dit pas un mot. Elle est totalement silencieuse. « Je suis une combattante », dira-t-elle plus tard. « Je ne me sens pas seule. Je suis accompagnée. Je sais que je suis accompagnée. Et je me sens tellement au-dessus de ceux qui m'interrogent. » Espèce de un narcissisme extrêmement puissant, un narcissisme phallique, un narcissisme comme ça, très fort de ces jeunes filles. Et en même temps, un narcissisme très fort, mais un narcissisme humilié. Tu as dit blessé, moi je dirais humilié. Elle se dit, comment peut-on me poser des questions comme ça, aussi intimes ? Je n'ai pas à répondre. La conclusion du juge est de confier cette jeune fille au séminaire qui s'appelait à l'époque le séminaire de déradicalisation de Dounia Bouzard. Et je vais vous raconter en détail la première rencontre. C'est là où nous allons voir les différents niveaux de ce qui va se passer, de cette première rencontre qui dure deux, trois heures, peut-être même plus. Une petite parenthèse sur la radicalisation. Alors, le mot est complètement perverti dans les médias. Pour l'anthropologue, la radicalisation, c'est qu'on prend deux lignées de facteurs, de forces. C'est l'assignation. Tu es un tel, tu es un élève, par exemple, ou tu es un islamiste, ou bien tu es une charmante jeune fille, ou bien tu es... Bon, c'est une assignation, on pourrait dire une qualification. Et deuxièmement, la radicalisation comprend une discrimination. Tu es juive, tu n'es pas juive, etc. C'est-à-dire ces deux aspects d'ordonnancement et de spécificité du sujet. Donc, de toute façon, nous sommes tous radicalisés. C'est évident. Les adolescents sont tous radicalisés. D'ailleurs, ils sont qualifiés adolescents. Donc, c'est déjà une radicalisation. Donc, lorsqu'on parle de déradicalisation, on parle d'autre chose. On parle des moments où cette assignation, discrimination, le poids des idéologies a eu un impact très fort et a bloqué l'adolescence, a limité les capacités personnelles de l'engagement. Ce qu'on appellerait radicalisation, je crois qu'on pourrait le spécifier comme ça. Je vous ai parlé d'engagement, l'adolescence veut se créer lui-même, eh bien il est bloqué par les assignations dont il est l'objet. Tu es un adolescent, tu ne peux pas prétendre avoir une fonction et être un acteur social. Tu ne peux pas. Les assignations apparaissent comme une sorte de blocage dans l'évolution. Mais ce n'est pas seulement un blocage, c'est un blocage dans l'évolution quand elles sont en excès. Je suis plus précis. Toute adolescence, dans son développement personnel, comme ça, va rencontrer des assignations successives. Cet adolescent, par exemple, est assigné comme élève 6 heures par jour. Voilà. C'est une façon d'être adolescent, n'est-ce pas ? Donc, d'une façon, s'il accepte cette assignation-là, c'est tout à fait à son bénéfice. Mais la radicalisation dont il est question dans les médias, et qui amène à parler de déradicalisation ensuite, eh bien, la radicalisation, c'est en fait des assignations en excès, rigides. Discriminative, tu es cela et tu ne peux pas changer cela. C'est-à-dire, c'est en fait une radicalisation. Je disais, nous sommes tous radicalisés, mais nous subissons pas forcément tous une radicalisation en excès. qu'elles soient religieuses, politiques, racistes, etc. Je reviens avec cette parenthèse un peu longue, à cette grande séance. Alors, pendant la première heure, alors, les personnes qui sont là, ce sont des membres de l'équipe de Bouzard, en général la présence de un ou deux policiers, et plusieurs adolescents qui se trouvent, qui ont été convoqués, et leur famille, père et mère, et seulement père et mère, et également des membres de l'équipe qui sont dans l'ensemble, les, très important, qui sont des anciens déradicalisés, des anciens qui ont voulu partir en Syrie, non pas qui en sont revenus, mais qui ont renoncé ou bien qui ont surmonté leur désir de partir. Donc il y a la première heure, c'est un débat. Et alors c'est intéressant ce débat, parce que dans ce débat, chacun a ses théories. Léa reste silencieuse pendant cette heure, et elle s'aperçoit que les théories défendues par les policiers, par les membres de l'équipe, eh bien, sont des théories assez contradictoires, et le risque de ce débat, c'est le risque de la radicalisation, c'est le risque de la polémique. C'est ce qu'on entend constamment dans les tribunes médiatiques, c'est-à-dire le heurt de deux opinions contraires, violentes, l'un n'écoute pas l'autre et inversement, et on est dans une polémique qui suppose que ce qui est contradictoire d'une certaine façon avec l'écoute de l'opinion de l'autre. Alors toute l'astuce de cette équipe, très délicate, moi je pense même partiellement impossible, c'est que chacun puisse développer son point de vue sur un modèle narratif, chacun peut développer son histoire, ou éventuellement des séquences de son histoire, sans pour autant qu'une contradiction survienne de la part des autres. Donc, bien entendu, de temps en temps vont apparaître des idées, en l'occurrence djihadistes, des phrases entendues à droite et à gauche, sur Internet ou dans la réalité. Mais ces phrases, il s'agit pour l'équipe en question de ne pas rebondir, de ne pas s'opposer à la séduction que ces phrases peuvent avoir sur chacun. Il s'agit de croiser des narrations, de croiser des trajectoires relatées. Ce que Ricoeur a développé sous l'angle d'identité narrative, c'est-à-dire qu'il s'agit que chacune de ces personnes parviennent à raconter leur modalité de vie, mais pas seulement le moment où ils ont été comme ça envahis par telle ou telle conviction religieuse ou politique, et donc il s'agit petit à petit de faire évoluer ce qui est toujours polémique au départ en narrations successives, et on voit très bien qu'il y a un moment où Léa se trouve dans la disponibilité pour dire comment ça lui est arrivé à elle. Comment elle a voulu, comme ça, quitter sa famille, quitter la Bretagne, comment elle a entendu les propositions qui lui ont été faites. Et elle arrive même à raconter que le discours djihadiste qui la sollicitait avait l'air de savoir des choses sur elle, des choses qu'elle avait dites, mais qu'elle avait oublié d'avoir dit, en particulier sa passion pour le tir au pistolet. Hein ? Avec son père, elle allait une fois par semaine, ou quelquefois un peu moins, s'entraîner au tir. Et elle disait, bon, ce petit détail avait été relevé dans le discours qu'elle entendait, avec lequel elle débattait. Et elle le dit, petit souvenir qui n'était pas forcément habile à dire, n'est-ce pas, quand elle est sous la pression judiciaire. Bref, ce qui est important de ce premier temps, c'est qu'il se constitue un groupe de gens qui, quelque peu et malgré tout, s'écoutent, voilà, et qui ont l'occasion de dire des choses. Et il s'est passé quelque chose, puisque Léa, la fière, la caractérielle, totalement silencieuse, eh bien, est sortie de son silence. Deuxième moment de ce groupe, qui est de cette séance, pas, qui dure très longtemps, qui est alors très particulière. On rentre dans l'intime. On rentre, je dirais, dans l'être avec, donc, que j'ai dit. Tout à l'heure, on était resté dans la polémique. Qu'est-ce que c'est que la polémique ? C'est l'art d'avoir un pouvoir sur l'autre. C'est l'espèce d'hésitation ou de violence, lorsqu'on perd son pouvoir de parole, ou quand on est de violence quand on l'a, n'est-ce pas ? C'est ça la polémique. Là, il va apparaître dans un deuxième temps quelque chose de l'ordre de l'intime estime. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle en français Inès et qui s'était dénommée en Caïda et avec qui elle s'était entretenue depuis des mois sur ordinateur, sur internet, sans jamais l'avoir vue. Cette jeune fille de 15 ans est là. Et petit à petit, elle ne l'a pas reconnue tout de suite, mais elle a reconnu les phrases, les échanges qu'elle a pu avoir, et petit à petit, elle voit la jeune fille avec qui elle a parlé et avec qui elle a dit échanger déjà des choses très intimes. Il se constitue, alors, je théorise un tout petit peu, elle s'y se constitue alors une sorte de groupe, de petit groupe comme ça, entre ces deux filles, de groupes intimes, dans lesquels, de groupes de pairs, P-A-I-R-S, plutôt que le terme de groupe, j'aime mieux le terme de communauté, de petite communauté, dans lesquelles les choses peuvent se dire, ou peuvent pas forcément se dire, mais au moins s'évoquer, et elle regarde, elle cherche dans le groupe, il y a quand même une vingtaine de personnes, elle cherche à se rapprocher de Inès, et elle s'en rapproche, et elle s'aperçoit que Inès, à côté d'elle, a une mère qui pleure. D'ailleurs, toutes les mères qui sont là pleurent. Et les filles ne pleurent pas, elles sont devant elles, très, très orgueilleuses. Et elle s'aperçoit que Inès implicitement se rapproche de cette mère qui pleure. Elle ne comprend pas pourquoi, puisque toute la démarche de Léa est au contraire d'échapper à la famille, d'échapper à sa mère qui était hyper anxieuse et très proche, qui tenait beaucoup à sa fille, une mère très protectrice, on pourrait dire, enfin on pourrait donner très bon. Et de façon très étrange, ça lui fait penser à quelque chose qu'elle n'avait jamais dit sur Internet à son recruteur, c'est qu'elle avait perdu une sœur il y a 2 ans. Léa avait perdu une sœur il y a 2 ans. Donc, un événement énorme, c'est une petite fille en bas âge, et elle avait vécu ce drame familial. Et de façon assez étrange, ni ses parents qui avaient pris la parole n'avaient pas fait allusion à ce moment d'intimité extrême. Bref, nous sommes dans un deuxième temps. Vous voyez, le groupe a évolué. Ça n'est plus le groupe que nous avons, le groupe initial qui partait sur la polémique, sur les débats politiques, religieux, etc., nous sommes passés à un niveau beaucoup plus intime. Troisième temps, qui est alors peut-être le plus, pour moi, le plus révélateur. Léa, dans son mouvement, après avoir vu la mère d'Inès qui pleurait, elle qui tournait le dos à sa propre mère qui pleurait, elle se retourne vers elle, et lorsqu'elle se retourne, sa mère, comme ça, glisse ses doigts entre les doigts de sa fille. Une espèce de mouvement comme ça, interactif, sensoriel, d'amour, pas de tendresse. Et elle le fait avec une grande discrétion, parce qu'elle l'aurait fait 15 jours avant, Léa aurait refusé. Et aussitôt, il vient dans l'esprit de Léa un souvenir qu'elle n'a jamais eu, mais qui tout à coup revient, qui est le moment où elle avait 3-4 ans, où elle cherchait les doigts de sa mère pour s'accrocher en marchant éventuellement, et se rappelle-t-elle, jamais sa mère n'avait retiré sa main. Toujours, Léa avait peur que sa mère s'éloigne, retire sa main, et sa mère ne l'avait jamais fait. À ce moment-là, il se passe quelque chose de radicalement différent, toujours dans le même groupe. Et conclusion de cette première histoire, c'est la conclusion de l'équipe qui est « On a réussi à toucher Léa, c'est génial ». Donc, il y a une sorte de résultat de cette séance, un résultat inattendu, un résultat exceptionnel. Mais dans lequel, vous voyez, on est passé d'une sorte de toute-puissance, de désir de possession, de désir de posséder l'autre, d'être possédé, formidable, de chacun des membres du groupe, on est passé à l'intime. On est passé à la naissance de l'intime, et important, sans que ça provoque de crise, et sans que ça provoque d'amalgame. Il y a eu les moments de polémique, il y a eu ces moments d'intimité. Je veux dire par là que l'interaction des doigts, par exemple, je prends l'exemple de cela, l'interaction des doigts entre la mère et la fille était une interaction d'égalité. Les doigts n'étaient pas les mêmes, mais il y avait une sorte de similitude sensorielle entre la mère et la fille. Donc le groupe premier, il était centré sur l'inégalitaire, le pouvoir, la hiérarchie, c'est moi qui ai raison, etc. Et à la fin, se crée un troisième groupe, si je peux dire, en passant par Inès, un troisième groupe qui est un lieu d'intimité mère-enfant, et qui est un lieu d'intimité tellement forte qu'elle rappelle, elle permet de retrouver un souvenir très profond, un souvenir personnel, c'est-à-dire là, on est vraiment, on pourrait partir dans des interprétations psychanalytiques que je ne vais pas faire. Alors, l'équipe, il s'est passé quelque chose, et l'équipe, bien entendu, est contente de la réussite de ce qui s'est passé, mais ils sont très réservés. Et il pense que Léa, à partir de ce moment-là, va peut-être faire le deuil de ses utopies. Là, je cite Dounia Bouzard. Mais avant de revenir dans le monde réel, une longue période va devoir être nécessaire. Cette séance, comme je vous rappelle, est perçue dans cette équipe de déradicalisation, est perçue comme un début. Un début heureux, d'une certaine façon, mais ça n'est qu'un début. Ça n'est qu'un début. Léa rentre en pleine zone grise. Donc elle va, dans la suite du livre, passer par des périodes comme ça, très, très se rapprochant avec, en particulier Inès, avec les membres de l'équipe, etc. Et puis des moments dans lesquels elle, elle se retire au contraire, retrouve des convictions politico-religieuses et se trouve à l'écart. Donc voilà, ce cas me paraît intéressant dans la mesure où il a été publié, intéressant dans la mesure où Dunia Bouzar en a parlé dans divers médias. Ce cas, pour finir, mes informations sont exactes, ne va pas tourner bien le désir de repartir en Syrie, à ressaisir Léa, et la police ne va pas être satisfaite. Deuxième exemple, c'est un exemple, alors plus, je vais être plus rapide, mais c'est un exemple un peu d'une séance de l'équipe de Dunia Bouzar, de séance de rencontre dans laquelle on voit bien cette problématique, cet antagonisme entre la possession, l'avoir et l'être avec. Vous allez le ressentir sans doute. C'est un jeune garçon de 15 ans, je passe assez vite sur son histoire, qui depuis environ 3 ou 6 mois a d'un seul coup très rapidement s'est modifié. Alors, je reprends les mêmes termes. Il a les indices de radicalisation, comme on dit. Il a refusé l'école. D'abord, il a échoué à l'école. Il était très brillant, très intelligent. Il refuse l'école. Il ne voit plus ses amis et il s'engage dans une conviction religieuse, dans une vie religieuse, dans un groupe salafiste qui dans lequel il a des croyances extrêmement fortes. Lui qui était très caractériel, très violent, devient plutôt gentil, plutôt agréable dans ce groupe-là. Néanmoins, il n'allant plus à l'école, il s'occupe, il fait un peu de commerce, il a fait un peu de commerce de drogue, et ensuite il s'est engagé dans un métier très particulier qui consiste à détruire des sur ordinateur à faire le métier de hacker, c'est à savoir de détruire sur ordinateur les ordinateurs, certaines capacités d'ordinateurs de la police. C'est ça qui l'intéresse, de la police. Bref, il ne manque pas, il ne fait pas ça tout seul. Il a un groupe d'amis et ils font ça ensemble et ça marche bien. Il en a détruit plusieurs, ils sont fiers d'eux, ils sont contents, fiers. Ils ont trouvé un métier nouveau. Et ils se révèlent extrêmement doués pour ce métier. Bref, ils se font repérer, arrêter et emmener dans le séminaire de désembrigadement. Et je vous raconte à nouveau la séance première. Je la résume. Dans un premier temps, on polémique de la façon la plus violente. Dans cette polémique, tout le monde amène son point de vue religieux, point de vue politique, etc., etc. Et il n'y a que il y a lui qui est totalement silencieux, aussi silencieux que ce gamin de 15 ans à Marseille qui a commis cet attentat et qui, lors de l'arrestation, n'a jamais dit un mot. Totalement silencieux, très fier, arrogant par son silence, et ses parents, qui sont immigrés depuis environ une trentaine d'années en France, d'Algérie, eh bien, ses parents ne savent pas. Qu'est-ce qui est devenu notre fils? Ils sont désespérés, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant de l'évolution pourtant évidente de leur adolescent. Les parents sont à l'écart, ils ne répètent qu'ils ne savent pas. Et puis, le temps passe, et puis il y a le témoignage d'un jeune qui n'est plus adolescent, qui est rentré de Syrie, à ses risques et périls, et qui est arrivé aussi à être là sans être en prison. Donc il a vraiment échappé à bien des menaces, qui raconte, et puis à un moment, dans cette polémique très bruyante, il se lève. Lui qui était assis petit dans son coin, regardant un peu férocement les membres du groupe, il se lève, s'avance au milieu du groupe et dit « Vous ne comprenez rien à rien. Mon problème n'a rien à voir avec tout ce que vous avez dit. J'ai un problème. Le problème, c'est qu'il y a 2 ans, mon grand-père est mort en Algérie. Je vivais pour mon grand-père. Je vivais comme mon grand-père. Et il est mort. Je n'ai pas pu aller le voir. Je n'ai pas pu aller à son enterrement. Parce que j'avais décidé de mourir. J'ai fait une tentative de suicide et de façon malheureuse, on m'a tiré d'affaire. J'ai fait un coma, mais on m'a tiré d'affaire. C'est une erreur. Depuis que mon grand-père est mort, je ne sais plus qui je suis. Donc tous les problèmes que vous débattez n'ont rien à voir avec moi. Et alors, cette idée comme ça qu'on pourrait développer sur cette, ce qui était important pour ce garçon, y compris au début de son adolescence, c'est l'intimité qu'il avait, on pourrait dire l'identification plutôt, qu'il avait avec son grand-père, ce personnage clé de sa vie, dont il voulait refléter les valeurs. Eh bien, cette intimité qu'il avait avec ce grand-père, cette intimité partagée, hein, c'est-à-dire intime, extime, n'est-ce pas ? Cette intimité partagée avec ce grand-père était la racine, était la révélation, en quelque sorte, de son début d'adolescence. S'il voulait devenir quelqu'un, c'est quelqu'un, non pas comme le grand-père, forcément, mais quelqu'un par rapport à ce grand-père. Et au moment de la mort de ce grand-père, il n'y avait plus de raison pour lui de se créer, de s'engager dans l'adolescence. Il n'y avait plus de raison pour vivre, mais il n'y avait plus de raison pour devenir quelqu'un. Et dès lors, il s'est engagé dans des affaires sans importance, qui l'ont beaucoup amusé, comme ça, qui l'ont amené à se trouver arrêté par la justice.
On te remercie, Philippe.